Allez, on a peut-être trouvé un moyen de faire quelque chose de ce fichu CO2 que nous rejetons beaucoup trop dans l'atmosphère et qui provoque notamment, lui en tout cas, le réchauffement climatique.
Mais effectivement, Charlotte, c'est une question très importante. Par exemple, est-ce qu'il y a moyen de le stocker? Certains pensent carrément le transformer et le mettre dans le sol, un peu comme les déchets nucléaires. Mais l'idée géniale, c'est d'essayer de le transformer avec un coût énergétique très bas, évidemment. Parce que si vous devez le transformer et que ça nécessite encore de l'énergie, eh bien, vous allez polluer pour dépolluer, ce qui n'est pas très intéressant.
Oui, je crois que les opérations que vous évoquiez juste avant, à savoir le stocker et tout ça, c'est aussi très risqué et ça coûte beaucoup d'énergie.
Et ça coûte beaucoup d'énergie. Ouais. Et donc, ça vient d'être publié dans Nature ce 11 janvier, donc c'est tout à fait récent, par l'équipe de Jingjuan Chen, j'espère prononcer correctement son nom, qui est le professeur qui dirige le département d'ingénierie chimique à l'université de Columbia à New York et qui travaille aussi pour le Brookhaven National Laboratory, qui est un laboratoire de recherche payé par l'État américain, par le département de l'énergie. Vous voyez, c'est très important. Et donc, eux ont réussi à faire une réaction chimique à très bas coût, en quelque sorte énergétique, avec une possibilité de récupération. Alors, je vais expliquer ce qu'ils ont découvert, puisque effectivement, la solution viendra de l'intelligence humaine et de la recherche scientifique. Ils ont d'abord transformé le dioxyde de carbone, le CO2, en une autre molécule qui est le monoxyde de carbone, le CO, celui qui est toxique malheureusement lorsqu'on a une mauvaise combustion dans les chauffe-eau. Et ça, il passe d'abord par ce qu'on appelle une électrolyse, c'est-à-dire qu'ils utilisent de l'électricité. Donc, premier point, comment utiliser cette électricité? Mais ils arrivent à le transformer. Donc, vous prenez du CO2, vous mélangez avec de l'eau, vous passez tout ça dans une pile et il ressort de là du monoxyde de carbone, le CO, avec de l'hydrogène, donc qui peut être réutilisé, et de l'oxygène que vous pouvez évidemment libérer dans la nature. Ça ne pollue pas. La deuxième phase, et c'est ça qui est important, c'est qu'ils reprennent donc ce monoxyde de carbone et ils vont le mettre dans ce qu'on appelle un système de catalyse en présence de métaux, typiquement du fer et du cobalt. Et ils arrivent à montrer qu'à des températures tout à fait raisonnables, 750 degrés jusqu'à 400 degrés, et sous la pression atmosphérique, donc il ne faut pas de situation extrêmement compliquée, ils arrivent à transformer ce monoxyde de carbone en microfibres, des nanotubes qui ne contiennent que du carbone. C'est-à-dire qu'ils fabriquent des fibres et ils libèrent de nouveau de l'hydrogène. Et donc ils vont pouvoir récupérer cet hydrogène libéré pour en faire une pile qui va alimenter la première étape, vous voyez.
Et ah donc, oui, donc ça se recycle
voilà.
Soi-même
donc,
en énergie.
On peut tout recycler et on obtient à ce moment-là des fibres de carbone qu'on peut utiliser, des nanotubes de carbone qu'on peut utiliser à peu près partout. Et ils arrivent à montrer que, comme j'ai dit, c'est à très basse température, du point de vue chimique, hein, quand même, 400 degrés, c'est pas rien. Mais votre flamme de gaz, ça fait des milliers de degrés, donc c'est tout à fait raisonnable. Et la production est énorme, ils arrivent à produire 2,5 grammes par heure de traitement. Et donc ces microfibres-là vont être utilisées absolument partout. Par exemple, eux proposent pour le renforcement de la dureté des bétons, mais c'est la même chose par exemple dans les imprimantes 3D qui fabriquent des pièces en aluminium. Si vous injectez des nanotubes de carbone dedans, vous augmentez la rigidité de ces pièces. Bref, ils ont mis au point tout un système de processus très simple, peu coûteux au niveau énergétique, où on peut tout récupérer, donc on a un cycle vertueux en quelque sorte, qui prend le CO2 à la base et qui fabrique des nanofibres de carbone comme produit final.
Bon, alors c'est une super bonne nouvelle, mais on n'a pas pour autant résolu le problème du réchauffement climatique pour l'instant.
Non, effectivement.
Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça à plus grande échelle? Parce que bon, pour l'instant, c'est des tests dans un laboratoire.
Mais effectivement, c'est-à-dire qu'il faut passer maintenant avec un système de captation du CO2. Donc prenez par exemple des centrales au gaz qui fabriquent l'électricité. Eh bien, au lieu d'éjecter ce CO2 dans l'atmosphère, on le récupère directement dans un processus industriel qui est celui qu'ils viennent de mettre au point. Pour l'instant, c'est du labo, mais vous passez du laboratoire au processus industriel, vous captez le CO2 qui est libéré par les centrales classiques, centrales au gaz, et vous fabriquez des nanotubes. Et puis après, on peut imaginer aussi capter le CO2 dans l'atmosphère et l'absorber en quelque sorte au niveau du sol, et donc dépolluer, parce que c'est ça le problème du CO2. C'est un gaz à effet de serre, mais l'ennui, c'est qu'il ne disparaît pas de l'atmosphère, contrairement à la vapeur d'eau, qui est aussi un gaz à effet de serre, mais qui est recyclé, évidemment, puisqu'il est transformé en eau. Et donc ici, puisque c'est une publication scientifique, certes, c'est un laboratoire de recherche, mais du laboratoire au processus industriel, ça va aller très rapidement, et puis on pourra donc ainsi aménager ça dans toutes les production de CO2, que ce soit l'industrie, les productions électriques, etc.
Vous voulez dire que là, ce qu'on vient d'entendre, c'est quelque chose de révolutionnaire, ou bien il faut encore quand même attendre de voir si ça va vraiment se mettre en
place? C'est-à-dire que ça donne une voie révolutionnaire intéressante, puisque là, on est dans des processus chimiques catalytiques dans lesquels il n'y a pas de déchets, en quelque sorte, puisqu'on récupère tout. Donc on est pour la première fois devant un système qui est capable de capter ce CO2 et qui rentre dans un cercle vertueux écologique.
J'ai encore une question. Puisqu'on a réussi à fabriquer du carbone, on ne pourrait pas fabriquer des diamants?
On peut, mais là, il faut monter très haut en pression atmosphérique.
Ah, d'accord.
C'est-à-dire que la différence entre le graphite, le charbon et le diamant, c'est la structure cristalline qui est différente. C'est pour ça que le carbone est placé dans ce qu'on appelle les éléments allotropes, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre toute une série de dispositions cristallines. Effectivement, on pourrait transformer votre petit crayon en un splendide diamant, mais il faut une pression gigantesque.
Bon,
ce sera pour une autre fois,
Merci beaucoup, Pascal.